Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie.
Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Good! Goal line. Touchdown. Touchdown.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 693 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. C'est la semaine 15 et aujourd'hui je suis avec Victor Roulier. Salut Victor.
Bonjour Raoul, bonjour à tous.
On est reparti pour une semaine tous les deux et une semaine qui s'annonce décisive ou presque déjà pour certaines équipes. On va pouvoir en reparler, forcément fin de saison veut dire qualification pour les playoffs qui se dessinent de plus en plus. On va faire un petit point aujourd'hui, messieurs, dames, sur la division que les gens ne veulent pas gagner, en l'occurrence la NFC Sud, puisqu'il y a trois équipes qui sont aujourd'hui à égalité. On va revenir un petit peu sur leurs forces et leurs possibilités d'aller au bout. L'affiche du jour, c'est le match entre les Bills et les Cowboys, qui sera dimanche à 22h25. Et comme d'habitude, tous les pronos, les meilleurs codes de la semaine. C'est le programme du jeudi, vous en avez l'habitude. Victor, est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Eh bien alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Alors, messieurs, dames, le débat du jour, qui veut gagner la NFC Sud ? On dirait le titre d'une émission de télé-réalité sur M6. Déjà, une certitude, Victor, ce ne seront pas les Panthers qui vont gagner. On peut déjà partir de ça.
Oui, on peut déjà réduire à 3 équipes, c'est déjà bien.
Super. Bon, alors, il nous reste les Falcons d'Atlanta, les Buccaneers de Tampa Bay ou les Saints de Nouvelle-Orléans. Pas facile quand même, parce que ces trois équipes, déjà, on peut dire un tout petit mot sur l'ambiance globale. C'est pas trois équipes qui sont effrayantes aujourd'hui, on va dire, pour les adversaires.
Non, mais par contre, c'est pas forcément des équipes où tu les regardes, tu te dis « Ah, c'est facile à jouer ». Tu vois, c'est dans une sorte d'entre-deux d'équipes potentiellement embêtantes.
Oui, bon, c'est pas les Panthers non plus. Effectivement, aujourd'hui, donc, les trois équipes sont à 6 victoires et 7 défaites. Ce que je te propose, Victor, c'est qu'on passe en revue les trois équipes une par une en faisant un petit peu un point sur leurs forces. On se dira que tout ce qu'on n'évoque pas, c'est plutôt des faiblesses. Et puis ensuite, on pourra regarder le calendrier de chacun des trois pour essayer de deviner un petit peu qui peut aller au bout. Moi, j'ai fait de mon côté ce matin le test, encore une fois, si vous voulez vous amuser, la playoff machine d'ESPN est assez bien foutue pour ça. Donc, j'ai un petit avis là-dessus, on verra ce que ça pourra donner. Par qui tu veux commencer, Victor ?
Moi, j'ai été parti sur l'ordre alphabétique, donc j'avais préparé Atlanta Falcons en premier.
Allez, parfait. Eh bien, on y va sur les Falcons, c'est aussi ce que je m'étais mis. Aujourd'hui, pour toi, quelle est la plus grosse force ? Quel est le point fort principal des Falcons ?
Encore et toujours le jeu de course, qui est l'identité de cette équipe depuis la saison dernière. Identité qu'ils avaient quelque peu perdue durant la saison, à vouloir peut-être devenir quelque chose qu'ils ne sont pas. Et là, finalement, ils sont revenus un peu sur les fondamentaux et ils ont quand même ce duo Bijan Robinson-Tyler Algier qui est quand même ultra prometteur, sachant que derrière, c'est quand même l'ensemble des playmakers qui sont à souligner, parce que l'avantage quand tu vas installer ce jeu de course, c'est que forcément, bah, les défenses vont mettre plus de joueurs dans la boîte et tu peux libérer un petit peu le jeu de passe. Et on a vu qu'il y a des joueurs comme Drake London ou Kyle Pitts qui peuvent te punir derrière. Mais c'est vrai que la base, avant tout, de cette équipe, c'est la course, la course, la course.
Je suis d'accord avec toi, j'avais noté ça aussi, hein, globalement, les playmakers en attaque et surtout le jeu au sol. Tu as mentionné Kyle Pitts et Bijan Robinson, et Tyler Allgeier. Ce qui est rigolo, c'est que c'est la première fois de l'histoire qu'en NFL, une équipe a trois années d'affilée avec un rookie à milliards ou plus. En l'occurrence, en 2021, c'était Kyle Pitts, l'an dernier, c'était Tyler Allgeier, et cette année, c'est Bijan Robinson. C'est plutôt rassurant quand, en fait, ils sont capables d'avancer. On verra si ça leur permet d'aller au bout dans cette course au playoff. Mais s'il y a quelque chose sur lequel l'Atlanta doit capitaliser, c'est bien, je suis d'accord avec toi, ce jeu au sol. Autre chose qui peut éventuellement leur filer un petit coup de main,
petit bonus. Écoute, je te dirais quand même les playmakers défensifs. Et quand je dis playmaker, je devrais peut-être dire Jesse Bates à lui tout seul. Oui. Mais avoir ce type de joueur capable de provoquer la perte de balle, parce qu'on voit à chaque fois les matchs de ces équipes-là, ça se joue à 2 points, à 3 points, à vraiment des détails. Et avoir des joueurs capables de provoquer des pertes de balles comme ça, ça peut toujours faire plaisir.
Alors, Atlanta, donc, on vient d'en parler. Est-ce que derrière, si on respecte ta logique, tu nous as mis New Orleans ?
Exactement.
Alors, New Orleans, j'imagine qu'on va plutôt parler de l'autre côté du ballon, en l'occurrence en défense, mais en y réfléchissant, moi j'avais du mal à identifier un secteur un peu plus fort, parce que je trouve cette défense plutôt homogène. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais mettre en avant ?
Bah, en fait, moi j'avais été provocateur, j'avais mis les points forts, c'est les joueurs, et les points faibles, c'est le coaching.
ça me va aussi.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est volontairement un peu provocateur, mais... Quant à Ryan Ramsey, Alvin Kamara, Chris Olave, même en défense, hein, Paulson Adebo, Demario Davis, Cameron Jordan, Tyrann Mathieu, qui tu veux. Jordan, il y a des playmakers partout, en fait, dans cette équipe. Partout. C'est juste une équipe qui manque de lion et qui manque d'imagination, notamment offensivement. Après, quand je dis des joueurs, je n'exonère quand même pas Derek Carr, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup à la base, mais qui est quand même, pour le dire poliment, inconstant cette saison.
Oui.
voilà. Mais au niveau des armes, sur le papier, je veux dire, cette équipe, elle est complète et elle a des vrais bons joueurs partout.
Ouais, j'ai envie de te le donner, hein, ce point fort, les joueurs, et le point faible coaching, pour avoir regardé le match de New Orleans la semaine dernière. C'est quand même des aberrations, vu ce que t'as des deux côtés du ballon. Maintenant, moi j'irais quand même, enfin je trouve que cette défense est vraiment plus fiable, on va dire, puisque ça rejoint un peu ton point sur Derek Carr inconstant. Et moi c'est sur eux que je compterais là pour les matchs qui arrivent. En plus, on fera le point sur les oppositions qui leur restent. Mais je pense que c'est s'il y a quelque chose qui va au bout pour New Orleans, c'est beaucoup grâce à la défense et pas tant grâce aux deux touchdowns que Derek Carr lance dans les 5 dernières minutes d'un match. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors pour nos amis des Tampa Bay Buccaneers, c'est peut-être un peu plus évident là. Qu'est-ce qui toi te fait croire que ça peut les amener au bout chez les Bucs ?
Ben écoute, là encore, hein, y a du beau monde, il y a des playmakers, etc. Mais forcément, je vais d'abord regarder la défense. Parce que cette défense, avec Lavonte David, avec Vita Vea, avec Shaquille Barrett, avec Antoine Winfield, elle est capable, sur le papier, de limiter n'importe quelle équipe à 20 points au moins, en fait. Donc l'idée, c'est presque de se dire, la défense fait le boulot et on espère que l'attaque fasse suffisamment pour venir concrétiser. Parce que bon, l'attaque, par contre, même si Rashad White était un peu meilleur ces dernières semaines et que Baker Mayfield est Baker Mayfield, quoi, avec ses qualités et ses défauts, à part Mike Evans, c'est vrai que cette attaque, elle paraît limitée. Donc pour moi, ça, c'est l'équipe où il y a une vraie squad, c'est la défense, quoi.
Alors, j'ai quand même voulu mettre un peu en avant Mike Evans parce qu'il est en train de faire une saison pour quelqu'un qu'on a... oublié, je sais pas si on l'avait oublié, mais qu'on a moins mis en avant qu'à une époque où il a été beaucoup vu. Je trouve qu'il est en train de revenir vraiment au top. Et bon, ça c'est jamais inutile quand t'es un quarterback, disons, pas élite comme Baker Mayfield, d'avoir un super top receveur. Et pour ça, ça peut peut-être aussi les aider à aller au bout. Bon, là sur le papier, du coup, est-ce qu'on peut dire que les Saints ont le plus d'arguments en leur faveur si on sépare du contexte du reste de la saison ?
Oui. Mais dans les matchs de division qui sont quand même décisifs, c'est celle des trois équipes qui a le plus déçu. Oui. Donc je suis un peu circonspect en fait sur la capacité de cette équipe à gagner des matchs serrés, si tu veux.
Eh ben justement, le calendrier des Saints pour la fin de la saison, ils reçoivent les Giants cette semaine, puis ils vont chez les Rams, chez les Buccaneers et ils reçoivent les Falcons. Donc tu l'as dit, ils finissent par deux matchs de division. Je te donne rapidement les autres et puis on fait un point là-dessus. Pour les Buccaneers, ils reçoivent Green Bay cette semaine, puis ils vont chez Green Bay, puis ils reçoivent Jacksonville et New Orleans, et ensuite ils vont chez les Panthers. C'est peut-être plus facile encore qu'eux. Il y a quand même Jacksonville et Green Bay au début. Mais après, les Falcons, et là pour le coup, c'est le plus dur selon moi. Il y a chez les Panthers cette semaine, mais derrière, ils reçoivent les Colts, ils vont chez les Bears et ils vont chez les Saints. J'ai l'impression quand même que pour Atlanta, ça va être compliqué. Parce que Colts, Bears, c'est pas des équipes qui sont en tête de la division ou de la NFL, mais qui là vont jouer des choses en fin de saison et qui vont vouloir casser les pieds des autres. Et puis, bah, il y aura ce match à la fin contre les Saints qui est peut-être... Est-ce qu'on peut appeler ça la finale de la division, Victor ?
Peut-être. Peut-être bien. Peut-être bien la finale de la division. Après, disons que ça va dépendre du contexte. Que moi, je vais te dire tout de suite. Hein, je vais un peu spoiler.
Allez.
Je pense que Tampa Bay va gagner la division. Donc, okay. Je pense que finalement, le Falcon Saints sera entre de grosses guillemets, anecdotique. Voilà, exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche, vu que les mots, je n'arrive pas à les sortir.
Mais alors, il y a peut-être un monde, encore une fois, pour avoir fait joujou avec les différentes probabilités, où en fait, le gagnant de ce match-là peut peut-être choper une 7e place en NFC.
Ça, c'est pas impossible.
Et ça, c'est loin d'être impossible. Moi, dans mon scénario, je voyais plutôt les Saints gagner la division. Parce que j'ai du mal à imaginer... En fait, c'est les Saints, ils ont deux finales, si on veut. S'ils battent les Buccaneers en semaine 17 et qu'ils battent les Falcons en semaine 18, ça me paraît difficile d'imaginer qu'ils n'ont pas l'avantage sur ces deux autres équipes-là. Surtout que je les vois battre les Giants cette semaine. Donc, ils peuvent finir à quelque chose comme 9 victoires et 7 défaites. 8 défaites du coup. Et là, ça me paraît difficile d'imaginer les autres au-dessus.
Ouais, après, ouais. Ce qui me fait peur, c'est le côté déplacement aux Rams. Donc, tu vas à Los Angeles. Ouais. Puis déplacement en Floride pour aller affronter Tampa Bay. Donc, tu tapes quand même littéralement l'intégralité du pays à traverser. Ah ben. Au niveau des préparations, il y a des équipes qui vont direct, il y a des équipes qui. C'est toujours un peu compliqué. Bon, là, je pense qu'ils vont revenir chez eux pour aller en Floride, mais pour le coup, ça peut jouer aussi en fin de ouais. saison. Les joueurs sont fatigués quand même.
Oui, non, mais on est d'accord. En vrai, ce sera pas les Falcons, je pense, vu ce que je vois. Et je pense que Colts, encore une fois, Colts et Bears, c'est pas des matchs simples, surtout pour aller jouer à Chicago en semaine 17. Voilà, moi je te dis, moi je vois les Saints, toi tu vois les Buccaneers, on verra si l'avenir nous donne raison, peut-être qu'il y a un monde où les deux seront en playoff, en tout cas pour gagner la division, il n'y aura qu'un seul siège et on verra bien qui le prend. On passe nous à l'affiche de la semaine après le jingle. Top line, on 3, 1, 2, 3, top line. L'affiche de la semaine, messieurs, dames, c'est le match qu'on a choisi avec Victor. Moi, je voulais pas trop parce que, bon, ça va être Bills, 7 victoires, 6 défaites contre Cowboys, 10 victoires et 3 défaites. Et on a déjà parlé de Buffalo la semaine dernière. Mais en même temps, c'est probablement le match le plus excitant. Encore que, bon, en préparant, je me suis dit qu'il y en avait peut-être d'autres qu'on aurait pu faire. Mais bon, on a dit la semaine dernière que Buffalo devait gagner. Ils ont gagné, Victor. Est-ce qu'ils sont mieux lancés pour les playoffs pour autant
Ils doivent encore gagner.
Bah c'est ça, ils sont toujours 11e.
C'est de toute façon le cas de figure un peu, on va dire, idéal pour Buffalo, mais c'est facile sur le papier, hein. c'est d'enchaîner victoire Kansas City, victoire Dallas.
Ah bah oui.
Parce que là, après, sur la fin de saison, bon, on imagine que tu puisses s'en sortir. Sachant que voilà, il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes à 7 victoires, 6 défaites. C'est absolument démentiel, hein, globalement, ce qui se passe. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils finissent de tête par Chargers Patriots.
Oui. Chargers Patriots, c'est Dolphins après.
Ah oui, oui, c'est ça. Oui, il y a Dolphins à la fin. Bon. Donc, du coup, tu vois, s'ils peuvent enchaîner les victoires avant, ça peut être pas mal.
Oui, maintenant, aujourd'hui, ils sont 11e parce qu'ils ont pas mal de tie-breakers en leur défaveur.
Oui, ils sont derniers des équipes à 7-6. Mais ouais. en vrai, même s'ils perdent des Cowboys qui font 7-7, bon, derrière, faut faire 3 victoires d'affilée. Mais c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Les 17 dans cette AFC, normalement, ça peut suffire. Mais bon, à voir ce que font les autres aussi. Revenons sur notre match. Donc, effectivement, ils ont battu Kansas City. Maintenant, en ce moment, battre Kansas City, c'est une autre paire de manches que battre Dallas. C'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas la même ambiance. Je vais tout de suite te poser une question qui va un peu orienter la preview et je vais anticiper du coup. Mais est-ce que tu crois vraiment en Buffalo sur ce match ?
Je pense que oui, ils peuvent créer des problèmes, tout à fait à Dallas. Comment dirais-je ? Le fait est que ça reste quand même à Buffalo. C'est pas anodin. Dallas est habitué à jouer dans un dôme. Là, ils vont se retrouver dans le froid de Buffalo. On sait à quel point ça peut être compliqué. Après, oui, Dallas reste favori. Je vais pas te vendre Buffalo favori ou quoi que ce soit. Je pense juste que malgré les blessures, malgré une dynamique qui reste moyenne, Buffalo a les armes pour gagner ce match.
Pour info, aujourd'hui, on prévoit qu'il fasse entre 8 et 6 degrés à Buffalo dimanche avec de la pluie. Ça va, hein.
Franchement, pour un mi-décembre, on a connu pire à Buffalo. Hein.
Ah bah, moi, j'espérais qu'il neige. Franchement, les matchs de Dallas sous la neige, il y a toujours eu des trucs rigolos
c'est vrai.
Avec eux. Alors, ok, donc toi, tu imagines qu'il y a des choses qui peuvent leur faire pencher la balance. Quels sont un peu tes motifs d'espoir au-delà de la météo en défaveur de Dallas ?
Bah écoute, j'ai trouvé que Josh Allen, sur ces deux dernières semaines, a retrouvé quand même du lion. Il a gommé un peu les erreurs qu'il peut faire parfois. Clairement, la défaite face à Philadelphie 37-34, elle n'était pas imputable à Josh Allen, hein, qui a fait tout ce qu'il pouvait. Il a une ligne qui tient la route. Je trouve qu'au niveau des cibles, pendant longtemps, on a dit qu'il manque ce numéro 2 parce que Gabe Davis, etc. Et finalement, c'est Khalil Shakir qui est un peu en train de devenir le numéro 2. Dalton Kincaid qui s'impose en tant que tight end. Et cette défense, malgré les blessures, on a vu encore Mikael un peu blessé, etc. Malgré tout ça, il trouve aussi de quoi faire. Donc, clairement, je trouve que cette équipe a retrouvé du lion à minima. Ils ont retrouvé une dynamique d'équipe. Et du coup, c'est vrai qu'il y a deux semaines, je t'aurais dit Dallas largement favori. Là, je pense qu'aujourd'hui, sur un match à domicile, encore une fois, Buffalo, il va falloir un grand Josh Allen, mais Buffalo peut poser des problèmes.
Je te rejoins sur Josh Allen. Hein. Cette saison, il est encore... il est pas complètement à la ramasse, contrairement à ce que renvoie l'ensemble de cette équipe des Bills. Tu parlais de Kincaid. Même le duo de tight end avec Dawson Knox n'est pas inintéressant. Et j'entendais le débat l'autre fois de savoir si c'est le meilleur duo de tight end de la ligue à niveau égal. C'est vrai que
ça peut.
En un plus, duo comme ça aujourd'hui,
c'est complémentaire. Kincaid, c'est un vrai receveur. Knox, c'est un receveur bloqueur, donc il peut faire des choses différentes. Donc non, ça peut. Ouais. Et puis on a l'émergence de James Cook aussi qu'on a vu très bon face à Kansas City. Non, il y a des armes.
Et puis, bon, tu as parlé effectivement de la ligne offensive. Ils accordent que très peu de sacks. 18 seulement cette année. Je crois qu'ils sont à égalité avec les Chiefs en tête de la ligue à ce niveau-là. Donc, oui, il y a pas mal de motifs d'espoir pour Buffalo. Maintenant, Dallas, il y a quand même du matos de partout. Dak Prescott, cette saison, c'est 69,3% de passes complétées, 28 touchdowns et seulement 6 interceptions. Ils en parlaient, Lucas et Raphaël, lundi. Mardi en l'occurrence. C'est un meilleur Dak Prescott du fait de ses pertes de balles qui sont un peu effacées, Victor.
Oui, bah, il a eu une année catastrophique l'année dernière où il fait, je crois, 15 interceptions ou quoi, sans jouer tous les matchs. C'était vraiment l'année où il a été mauvais. Alors que la plupart des années, il a été plutôt bon. Hein. Mais l'année dernière, il a été mauvais. Ça arrive, c'est comme ça. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être plein de choses. Là, cette année, il est revenu avec une rage de vaincre absolument démentielle. On disait, oui, mais cette équipe de Dallas, ils ne battent pas les grosses équipes. Ils ont quand même foutu la pâtée aux Eagles. Alors oui, les Niners avaient fait avant eux, mais bon, les Niners, ce n'est pas non plus n'importe qui, tu vois.
Non.
Donc, je trouve que cette équipe de Dallas, comme tu dis, en fait, ce qui est assez effrayant pour les adversaires, c'est que tu regardes l'effectif, bah c'est bon partout en fait.
Ouais. Ouais,
t'as pas un endroit où tu dis ah oui, là ils sont pas très bons, là il y a un vrai défaut et tout, faut appuyer. Non. Bah non, ils sont bons partout en fait, c'est terrifiant.
L'équipe est hyper équilibrée, ils autorisent que 17,9 points par match. Après, tu vois, on vient de louer la ligne offensive des Bills. Micah Parsons va avoir du boulot. Ça va être intéressant de voir cet affrontement-là aussi.
Oui, ça va être très intéressant. Bah, le facteur Micah Parsons, il est toujours présent parce que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Je trouve parfois un peu injustement mis derrière Watt, Garrett, etc. Alors je pense qu'il est exactement dans la même dimension. Et puis, tu as quand même Stephen Gilmore à côté qui est en train de renaître. Non, ça va être très intéressant. Je suis d'accord avec toi que une des choses les plus importantes dans ce match, des deux côtés en fait, ça va être le pass rush parce que les deux équipes ont un pass rush quand même assez fourni.
Ouais.
Et si une des deux équipes arrive à prendre vraiment l'ascendant, c'est ça qui peut faire la différence.
On est bien d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, on n'a pas un petit duel fratricide là, dans ce match-là?
Un petit duel fratricide entre Edix? Ouais, enfin, il y en a un qui est à l'infirmerie.
Bah ouais, mais c'est bien ce qui est décevant, c'est que du coup, moi j'attendais un peu ce match-là. Je me disais, on avait eu les frères Kelsey là, il y a quelques semaines. Moi je trouve ça toujours assez sympa. D'autant que là, ils peuvent se jouer. Donc bon. Tant pis, on n'aura pas droit à cet affrontement-là. L'autre truc que je voulais dire, oui, il y a quand même un truc, c'est que, ok, Josh Allen, cette année, c'est bien, c'est bon, c'est fort, mais il y a quand même des pertes de balles qui sont encore un peu là. Est-ce qu'on a le sixième pick six de l'année pour Darren Bland?
Sixième ou septième? Il n'y en a pas déjà fait six, je suis perdu.
J'ai regardé ce matin, on m'a dit cinq, mais je peux revérifier.
Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Si les Bills veulent vraiment gagner ce match, oui, bien sûr que le plus important, ça va être d'éviter les pertes de balles. Parce qu'on a vu lors du match entre les Cowboys et les Eagles, les Cowboys, ils sont toujours là pour les prendre, ces petits ballons qui traînent. Donc pour le coup, oui, ça va être fondamental parce que si Josh Allen sort son match à 3 interceptions, c'est mort.
Ouais, bah c'était un peu mon point final entre guillemets sur ce match-là, c'est que j'ai peur que les pertes de balles handicapent trop Buffalo, et donc je vois Dallas l'emporter, qui pour info, s'ils gagnent, valide leur ticket pour les playoffs. Qui est-ce que tu pronostiques sur ce match, Victor?
Eh ben, je vais partir sur les Bills pour deux raisons très techniques et évidemment très relevant.
Oui, bien sûr.
C'est que Josh Allen est un de mes joueurs préférés en NFL et que j'ai envie de voir en playoff. Et la deuxième, c'est que je ne serais pas contre une défaite des Cowboys. Voilà, donc je vais miser les Bills, quitte à perdre un point, mais allons-y avec panache.
Allez, c'est beau, bravo ce que tu fais. Voilà pour l'affiche de la semaine, je vais y arriver. Nous, on va passer à tous les pronos et c'est après le jingle.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong.
Yes, sir.
And we're gonna work on three. One, two, three, work!
Et puisqu'on parle de panache, Victor, on va faire un petit point sur les scores des pronostics de la
team
TDR.
S'il te plaît.
Je rêve. Victor, qui est de retour en tête, messieurs, dames, exceptionnel, mais vrai. Petite semaine pour tout le monde.
Comment ça, exceptionnel, mais vrai? C'est tout à fait logique, monsieur.
Logique, je sais pas. C'est la troisième semaine que tu es en tête cette année, deuxième?
Ça va, j'ai fini deuxième l'année dernière.
Et...
J'ai eu mon Super Bowl hangover.
On est dans le présent, monsieur, on est dans le présent. De toute façon, la semaine dernière n'est pas une semaine très glorieuse pour toute l'équipe qui finit à 7, sauf Victor qui finit à 9, bravo, et votre serviteur qui finit à 6. Je ne remercie pas Kadarius Toney de ne pas savoir voir en 3 dimensions. Au classement, donc, Victor est premier à 135 points, Lucas est deuxième à 134, Alain troisième à 132, Raphaël est à 130, je suis à 123 et Greg à 121. J'ai l'impression de voir des classements de Ligue 1 où il y a la bagarre en haut et la bagarre en bas. Quoique Raph est peut-être un petit peu isolé au milieu, mais attention, hein, de toute façon, tout va vite dans le football.
Donc, du coup, Grégory, c'est l'Olympique Lyonnais, quoi.
Écoute, je ne sais pas comment il le prendrait, donc je te laisse
une ancienne
mettre
gloire,
de tes propos.
Celui qui a pris des risques et ça ne paye pas.
c'est toi qui l'as dit. Alors, accrochez-vous chez vous parce que cette semaine, le programme des matchs est complètement, j'ai écrit fou sur ma feuille, mais on peut dire stupide si vous voulez, avec une programmation à la Thanksgiving le samedi. Donc voilà, vous allez voir, déjà on a 16 matchs puisqu'il n'y a plus d'équipe au repos jusqu'à la fin de la saison. Et on va commencer surtout avec une affiche qui est absolument exceptionnelle dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin. Ce sont les Raiders de Las Vegas à 5 victoires et 8 défaites qui reçoivent les Chargers de Los Angeles à 5 victoires et 8 défaites. Victor, je suis...
Football champagne.
Je suis dépité, je ne sais pas quoi te dire. Justin Herbert est out.
D'un côté, tu as des Chargers en pleine perte de confiance qui
tout
ont perdu Justin Herbert et qu'on lâchait leur coach.
Tout le monde.
De l'autre côté, tu as les Raiders qui viennent de perdre un match de football américain sur le score de 3-0.
Ça, c'est énorme.
Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment le Thursday Night Football comme on l'aime, quoi. Hein.
Horrible. Vraiment, t'as raison, ça renoue un peu avec la tradition des affiches catastrophiques. Moi, j'ai pas trop de problèmes pour pronostiquer ce match-là, puisque supporterisme oblige, je vais prendre les Chargers, mais je suis bien content de pas avoir à réfléchir pour choisir entre ces deux équipes.
Eh ben moi, je vais prendre l'équipe à domicile, je vais prendre les Raiders. Parce
et c'est
que,
tout à fait logique.
Notamment parce que, en fait, si tu veux, je pense vraiment que le groupe a lâché les Chargers.
Ah
et
oui.
D'autre côté, t'as des joueurs comme Davante Adams, comme Josh Jacobs, qui peuvent vraiment punir, tu vois, sur une bonne semaine. S'ils sont là, ils peuvent punir l'adversaire. Et donc,
ouais.
Je mise, entre guillemets, sur le star power des joueurs offensifs des Raiders.
À la rigueur, j'allais dire éclair s'il prend les choses en main et si jamais de l'autre côté Mac fait un peu le...
Oui, mais tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo, je pars du principe qu'il y a un bonus négatif dans tous les joueurs des Chargers, tu sais.
Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est bon. Ne perdons pas plus de temps sur cette affiche horrible. Passons plutôt à notre affiche du samedi à 19h. Donc, je vous l'ai dit, samedi, il y a trois matchs. Le premier, c'est 19h. Avec Bengals, 7 victoires, 6 défaites face aux Vikings, 7 victoires, 6 défaites. Minnesota qui va jouer avec Nick Mullens. Est-ce que ça change quelque chose, honnêtement, Victor ?
Jake Browning contre Nick Mullens, le duel qu'on attendait tous. Depuis le début
qu'on ne pensait pas qu'on en avait besoin, et pourtant il est là.
Non, après, franchement, honnêtement, les Bengals, ça fait deux semaines qu'avec Jake Browning, ils sont très bons.
Ah oui.
Ils ont retrouvé une énorme dynamique, ils ont le meilleur effectif, et ils sont à domicile.
Oui.
Bon, bah, pour moi, la logique voudrait que ce soit Bengals, quoi, c'est tout.
Oui, pareil. Pour les Vikings, Justin Jefferson n'est pas trop blessé, heureusement, donc il devrait être là. Et tiens, petit fait marrant, Jake Browning, il a commencé sa carrière en NFL en tant qu'agent non drafté chez les Bengals, chez les Vikings. Il est resté 2 ans dans le practice squad chez eux. Donc peut-être qu'il va recroiser d'anciens copains. Le samedi à 22h30, donc ça c'est le deuxième match du samedi. Encore deux équipes à 7 victoires et 6 défaites. En l'occurrence, les Colts qui reçoivent les Steelers. Les Steelers qui ont perdu face à New England, je trouve que rien que pour ça, ils méritent une punition et donc ils doivent reperdre ce match-là.
C'est d'accord. ils ont perdu contre les Cardinals et les Patriots.
Franchement, c'est
à domicile. À domicile.
Ouais. Bref. Ok, la défense tient la route, mais dans la course au play-off, moi j'espère sincèrement qu'Indianapolis gagne ce match pour qu'on se retrouve pas avec Mitch Trubisky en janvier, quoi.
Écoute, je pense que les Colts, ils ont eu un petit coup la semaine dernière. Mais je pense malgré tout que c'est une équipe qui est bien coachée, qui donne le maximum. Et là encore, le côté domicile, bon, j'y donne sûrement trop d'importance, je le dis chaque semaine, mais du coup, je vais partir sur les Colts.
Après, on ne peut pas dire que les Steelers soient mal coachés, mais si ça continue comme ça, il y a peut-être un moment où on finit. C'est la première saison.
Il y avait tout le problème Canada. Canada est parti, ils ont fait un match à 400 yards. Tout le monde a dit « Vous avez vu, c'était Canada le problème ». Bon, bah, depuis deux semaines, c'est à nouveau l'attaque, le problème dans son entièreté.
C'est ça. Et puis, j'allais te dire, est-ce qu'on se dirige vers la première saison en négatif de Mike Tomlin ?
Jamais, jamais. Il trouvera un moyen de faire 9-8.
Oui.
On le connaît.
Et peut-être qu'un jour, on reconnaîtra que c'est un bon coach.
C'est dans un Hall of Famer.
Dans la nuit de samedi à dimanche.
Non, je dis sans. Vraiment. Je pense que c'est un Hall of Famer. Et. Bon, il y a Belichick et Reed qui sont au-dessus, mais je pense que dans les coachs actifs, c'est le troisième plus grand coach qu'on ait actuellement.
Je rigolais pas parce que je suis pas d'accord, je rigolais parce que j'allais te faire une vanne sur le fait qu'il est aussi au Hall of Fame du R&B avec son, pour sa participation avec Black Eyed Peas, mais bon, ça c'est un autre problème.
Ah oui, d'accord.
Oui, c'est un peu le sosie de William, hein. Vous êtes obligé de me l'accorder. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h15 du matin, le troisième match du samedi, donc le Saturday Night Football, si on veut, des Lions qui reçoivent les Broncos, Lions 9-4, Broncos 7-6. Ça sent tellement le match piège pour les Lions. Après, Détroit a plus perdu en prime time depuis 2022. J'adore ces stats qui ne veulent absolument rien dire.
Ils ont perdu à Thanksgiving. On peut considérer... que c'est, même si c'était en early window, ça reste une sorte de prime time quand même.
Non mais c'est pour ça que cette stat est débile, mais que je te la donne parce que vraiment ça me fait trop rire. Sur le papier, Détroit est plus fort, mais enfin, moi là, c'est la dynamique de Denver qui m'inquiète beaucoup là, pour
les Lions. Je suis d'accord que ça sent le match piège à 2 km, mais j'ai l'impression que pour une raison qui m'échappe un peu, les Lions, c'est surtout en division qu'ils ont des problèmes, en dehors ça va...
Ouais.
Donc je vais partir du principe que la meilleure équipe va emporter. En plus, j'ai vu que pour l'instant tout le monde a parié les Lions, donc
je sais pas. Les autres ont rempli leur prono.
Bah, il y a toi et Greg, donc je spoil ton truc du coup. Mais
ah, bah, très bien, parfait.
Désolé. Mais bon, dans l'idée, voilà, je me dis que je vais partir sur la meilleure équipe, mais je suis d'accord avec toi que tu me dis au réveil que les Broncos ont gagné. Bon, je vais pas tomber de ma chaise.
Attends, tu vas pas rester réveillé pour regarder ce match, Victor ?
Non, j'ai une vie.
On embrasse d'avance la personne qui fera le résumé sur Touchdown Actu, bien sûr. Vous aurez dimanche matin tous les résumés sur votre site préféré. Dimanche à 19h, on reprend un horaire normal. Après, on reprend pas une affiche normale puisque ce sont les Panthers à 1 victoire, 12 défaites qui reçoivent les Falcons à 6 victoires, 7 défaites. On a déjà parlé un peu des Falcons. On n'a pas grand-chose à dire sur les Panthers. On peut peut-être donner notre prono et passer à autre chose, Victor.
Alors oui, les Panthers les Falcons sont ultra favoris et ont mis Falcons. Je tiens à préciser que Grégory Richard, qui est décidément dans un trolling du team, nous a mis les Panthers.
Oh non. Bon, c'est incroyable. Mais
bravo à lui. Ça, c'est
bravo.
Du panache.
Ça, c'est bon. Ça, c'est beau.
S'il passe, je suis tenté de lui donner 2 points. Tu vois.
Alors, moi, pas du tout, parce qu'on est au coude à coude, mais je vois ce que tu veux dire. Les Browns à 8 victoires, 5 défaites, qui reçoivent les Bears à 5 victoires et 8 défaites. Grosse performance des Bears en semaine 14 face aux Lions. Là, la défense des Browns, c'est quand même un autre calibre, puisque Cleveland est encore numéro 1 en NFL sur les yards accordés par match. Et Joe Flacco a presque l'air d'un quarterback élite. Je troll un petit peu, mais bon, c'est quand même une autre paire de manches, là. Pour les Bears, ça va être plus compliqué.
Ouais, je suis assez d'accord. Voir Joe Flacco avec le maillot des Browns, ça me donne un peu les mêmes relents que quand je voyais Brett Favre avec le maillot de Vikings. Les Bears, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et ils ont accroché les Lions 2 fois. Mais en dehors de ces coups d'éclat, ça reste quand même une équipe médiocre. Et les Browns, en fait, ce que je trouve admirable, c'est qu'ils ont 1 million de blessés, hein. Ils en sont à leur 4e quarterback, Jedrick Wills est out, Nick Chubb est out. Ils ont littéralement la moitié d'effectifs blessés et t'as l'impression que semaine après semaine, ils arrivent à rester soudés et à faire des belles choses. Donc je leur fais confiance et je parie les Browns.
Moi aussi. Packers 6 victoires 7 défaites, Buccaneers 6 victoires 7 défaites. C'est le match de la semaine sur 6 play. Tu vas rejoindre Luca Vola pour commenter ça, Victor.
Et ouais, et franchement, je trouve que c'est une super affiche. Ouais, parce ouais. qu'il y a des enjeux énormes. Il y a une équipe des Buccaneers qui peut être spectaculaire. Il y a une équipe des Packers qui est franchement fun à voir jouer depuis un mois. C'est vraiment un match qui me hype, en fait. Et en plus, c'est un vrai 50-50. Là, tu peux jeter une pièce et dire ça va être un ou l'autre. Il n'y a rien qui m'étonne. Moi, je suis parti du principe que jeune quarterback Jordan Love contre défense expérimentée, il va prendre un peu cher et du coup, je suis parti sur les Buccaneers.
Ah, d'autant que moi, je suis plus inquiet. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est une très belle affiche, d'autant que c'est un peu être un festival offensif parce que les défenses sont quand même. Alors, celle des Buccaneers aussi. Mais celle des Packers, elle autorise quasiment 140 yards par match au sol. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai mis les Packers, mais... Hein. Après, bah, en fait, je vais faire ce qu'on appelle dans le milieu une Victor Roulier, puisque je vais prendre l'équipe à domicile, d'autant plus que les Buccaneers qui ont l'habitude de jouer au soleil, blablabla, et bah là, ils vont jouer à Lambeau Field, où c'est quand même pas la même,
c'est vrai.
la même météo. Je suis surpris que tu l'aies pas avancé, cet argument.
C'est vrai qu'en plus, à Lambeau, le problème, il y a le froid et il y a le vent aussi. C'est ça,
je regarde
le
météo Green Bay, dimanche, on me dit entre 4 et moins 1, c'est encore pire qu'à Buffalo.
Et ça ne dit pas le vent ensemble. C'est un stade ultra traversant et ça peut être terrible.
Eh ben, 13 km/h, j'imagine que c'est le plus fort de la semaine de ce que je vois là. Donc
retrouvez-nous sur TF1 avant JT de 20h pour la météo tous les soirs.
Je vais garder les Packers. Je vais garder les Packers. Dolphins 9 victoires 4 défaites, Jets 5 victoires 8 défaites. Alors, petit accident de parcours pour Miami face à Tennessee, on peut dire que face à New York, normalement ça devrait aller, sauf que attention, les Jets, c'est quand même la meilleure défense, une des meilleures, deuxième je crois, meilleure défense aérienne de la ligue. Ça va pas être non plus une partie de plaisir si simple.
Honnêtement, j'ai presque l'impression que mon pari va dépendre de la présence ou non de Tyreek Hill. À 100% ou non. Je vais partir sur les Dolphins parce qu'ils ont plus à jouer et que je pense que malgré cette défaite, ils restent quand même sur une dynamique globale qui est bonne. Mais tu as l'impression que vraiment cette équipe, avec ou sans Tyreek Hill, elle n'a pas du tout la même tête. Et je vais être un peu provocateur. Si le MVP était vraiment la récompense du joueur le plus valuable, je pense que ça serait Tyreek Hill en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu enlèves CMC. Alors, bon, des quarterbacks, c'est toujours un peu différent.
Tu enlèves Dak Prescott à Dallas, à mon avis.
Il y a quand même une défense qui peut tenir la route. Il y a plein
Victor,
de choses.
Je vais pas te demander de dire du bien d'un quarterback de Dallas. Hein.
Mais Dak est clairement dans la course. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une défense qui tient la route. Il y a des playmakers et tout. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que cette équipe de Miami. Elle vit ou meurt avec son attaque et plus particulièrement, elle vit ou meurt avec Tyreek Hill. Mais du coup, pour l'instant, je vais mettre les deux suites.
Elle vit sur ce match, donc je suis d'accord avec toi. Patriots, 3 victoires, 10 défaites. Chiefs, 8 victoires, 5 défaites. Bon, si les Chiefs perdent face aux Patriots, là, il faut sérieusement se regarder dans le miroir. Est-ce que t'écoutes le podcast des frères Kelsey, toi, New Heights?
Non.
C'est vrai? Pourquoi t'écoutes pas? C'est trop bien, tu devrais écouter.
Non, moi, j'écoute des podcasts pour l'analyse NFL, les podcasts de blabla, ah ouais.
Moi, j'aime bien, ça me fait marrer. Bon. Toujours est-il que la semaine dernière, enfin dans l'épisode d'avant, c'était la première fois que les frères Kelsey perdaient la même semaine. Et là, ça vient de réarriver. Les frères Kelsey ont tous les deux perdu la même semaine. Est-ce que
Travis Kelsey... Non, mais je pense quand même que là, quand même, les Patriots... Ils doivent l'emporter. S'ils n'arrivent plus à gagner contre les Patriots, il faut arrêter la saison.
Bah, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont quand même... hyper parti pour se qualifier en playoff, mais arriver en playoff, s'ils sont sur une dynamique où ils ont perdu ces matchs-là et que là en plus ils ont perdu. Bon, bref, ça va être.
Je pense quand
animé.
Même qu'ils vont battre les Patriots.
Je pense aussi. Saints, 6 victoires, 7 défaites. Giants, 5 victoires, 8 défaites. On a parlé des Saints tout à l'heure. Les Giants qui sortent d'une victoire solide face à Green Bay. Est-ce que DeVito est le nouveau parrain de New York?
Et honnêtement, ça pue le match piège. Hein.
Oui. On est d'accord.
Les Giants en pleine confiance. Qui arrivent, qui n'ont rien à perdre, qui sont miraculeusement à une victoire des wild cards face à des Saints en plein doute, etc.
Mal coaché.
Franchement, ça sent le match piège à mort. J'ai quand même parié les Saints parce que j'ai pas envie de perdre un point et
non.
Qu'ils sont favoris et qu'ils ont le meilleur effectif sur le papier. Mais ouais, ça sent le piège, mais. Mais là, c'est même plus à 2, c'est à 20 km.
Pour te donner un indice, même Grégory Richard n'a pas osé pronostiquer les Giants. C'est dire. Maintenant que j'y repense, il a probablement pronostiqué les Panthers parce que c'est les Falcons en face et qu'il est un peu superstitieux. Mais...
c'est possible.
Il y a un dernier match à 19h, c'est les Titans à 5 victoires et 8 défaites qui reçoivent les Texans 7 victoires et 6 défaites. Houston qui doit se remettre la tête à l'endroit pour gratter une place en playoff, c'est maintenant qu'ils doivent le faire. Est-ce que en face on croit à un petit effet fin de saison avec un Derrick Henry qui se réveille, avec Lewis qui fait un pas trop mauvais boulot, Victor?
Ouais, match de division, pas évident du tout. Une équipe de Tennessee, bah forcément, quand tu sors d'une victoire miraculeuse comme ils ont eu lundi soir, bah, niveau moral, tu peux pas être beaucoup plus boosté que ça. Malgré tout, les Texans jouent un peu plus quand même au niveau de l'enjeu, puisqu'ils jouent les playoffs. On a vu que ces Texans qui se sont crachés hein, contre les Jets, bah, ils manquent de tank d'ailes, hein. Sans Tank Dell, c'est plus la même attaque. Malgré tout, je vais jouer la carte réaction d'orgueil et partir sur les Texans. Mais honnêtement, ça n'a pas été évident.
Moi, plus que réaction d'orgueil, j'ai l'impression que ça leur pendait un peu au nez aux Texans. Tu vois, ils faisaient des matchs qui étaient de plus en plus poussifs. Là, ils prennent une vraie claque dans la gueule et je pense que c'est un peu l'étincelle qui reset tout ça. Donc, Je crois là sur ce match-là et je pense que pour la fin de la saison, ça devrait aller mieux pour eux. Dimanche à 22h05, on a les Cardinals à 3 victoires et 10 défaites face aux 49ers à 10 victoires et 3 défaites. San Francisco qui est déjà qualifié en play-off, mais il y a des meilleures places à aller chercher. Bon, bah, ce match face aux Cardinals, c'est l'occasion parfaite d'avancer un petit peu plus vers la première place.
Oui. Normalement, ils doivent faire le boulot. Je vois pas comment ils pourraient ne pas le faire. Les Cardinals sont pas ridicules. Hein.
Non, mais c'est trop tard.
Mais là, il y a un peu trop quoi. Les Cardinals, ils ont même pas un cornerback potable. On va leur demander de défendre Ayuk et Deebo.
Et Kittle, allez bisous.
Bon chance.
Rams 6 victoires, 7 défaites. Commanders 4 victoires, 9 défaites. C'était cruel en fin de match là, pour les Rams en semaine 14. Cette défaite face aux Ravens, on avait dit en plus qu'il y avait de quoi aller les chercher pendant que Washington se reposait. Hein. Donc, on a fait l'apologie de Los Angeles la semaine dernière. Ils doivent confirmer cette semaine, Victor.
Et ils doivent. Après, c'est typiquement le match où Sam Howell va faire 400 yards et 3 touchdowns. Et tu sais pas comment les Commanders vont gagner, parce que les Commanders, c'est leur spécialité, hein, de gagner ce genre de match. Mais normalement, oui, les Rams... J'aime pas le terme de défaite encourageante, mais malgré tout, perdre en prolongation contre les Ravens, j'ai pas l'impression que ce soit quand même...
Et puis de cette manière-là.
Et puis, offensivement, ils ont un rythme, ils sont ultra dangereux. Mmh. Et t'as qui dans cette défense de Washington pour les arrêter? Enfin, déjà, la défense était moyenne. Tu enlèves les deux meilleurs pass rushers à la trade deadline. Enfin, il reste
mais
plus
c'est...
grand monde.
Tu vois, c'est pour ça que j'allais dire, quand bien même Howell sort un match à 400 yards et 3 touchdowns.
Ouais, quand bien même il marque 35 points, ils vont s'en prendre 41.
Bah, je pense que les Rams gagnent quand même.
Ouais, je suis convaincu aussi, allez, Rams.
On prend les Rams sur ce match-là. Il y a un match à 22h25, c'est l'affiche qu'on avait choisi de présenter dans le podcast. C'est les Bills à 7 victoires, 6 défaites face aux Cowboys à 10 victoires et 3 défaites. J'ai choisi les Cowboys, tu as choisi les Bills. Le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera 2h20, c'est entre Jacksonville, 8 victoires, 5 défaites, et Baltimore, 10 victoires, 3 défaites. C'est quand même une belle affiche, ça aussi. Forcément, attention aux Ravens, hein, au sol, comme d'hab, ils sont numéro 1 en NFL. Est-ce que Trevor Lawrence t'a paru un peu diminué des manches derniers, toi?
Oui, complètement. Complètement, pas
parce
dans
qu'ils
son
tiennent
match.
Quand même le rythme en attaque.
Ouais, mais mentalement, pas dans son match. En fait, il réussit à faire des stats à la fin au mental, mais en vrai, quand ça comptait au début du match, il a surtout lancé des interceptions. J'ai trouvé peu mobile, pas dans son match. Et je trouve que c'est typiquement le genre d'équipe un peu plafond de verre pour les Jaguars. Je ne les vois pas embêter Baltimore. Moi, je vais miser sur les Ravens, ouais, assez aussi. Confortablement, j'avoue.
Je mise sur les Ravens, d'autant que ouais, il faut vraiment que Lawrence soit au top du top parce qu'il aura peu le ballon forcément vu que Baltimore va beaucoup courir et je le vois mal réussir à tenir le rythme. Pour info, Baltimore qui est qualifié s'il gagne et que Buffalo, Cleveland et Denver perdent en gros, s'il y en a 2 sur 3 qui perdent, je crois qu'ils sont qualifiés. Mais donc Baltimore qui peut gratter un ticket en playoff dès cette semaine. Et enfin, le dernier match de la semaine dans la nuit de lundi à mardi à 2h15, c'est le Monday Night Football entre les Seahawks, 6 victoires et 7 défaites, et les Philadelphia Eagles à 10 victoires et 3 défaites. Victor, petite question pour toi. Depuis quand Philadelphie n'a pas battu Seattle? J'allais dire en saison régulière, mais en fait, ça ne change rien.
2008.
Oh, monsieur a révisé. 2008, exactement.
T'inquiète, tous les ans, on nous ressort à ça, donc on la connaît bien, parce qu'il y a eu quelques années où, comme on était tout le temps à la même place en division, on jouait tous les ans. Oui, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas battus. Oui.
Dans les faits, c'est 6 matchs de saison régulière et un match de play-off, c'est les wildcards 2020, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, celui où Carson Wentz se fait exploser la tronche au bout de 5 actions.
Pauvre enfant. Donc, bon, moi, évidemment, sur les formes et les dynamiques actuelles, ça me paraît difficile de ne pas pronostiquer Philadelphie, et je vais le faire. Mais voilà, c'est à Seattle. C'est pas exactement la grande forme en ce moment du côté de Philadelphie. Est-ce que l'aigle blessé ne serait pas la proie du... C'est quoi déjà le Seahawks? On a dit que c'était un... Camille me dit tout le temps, un pigarde.
Un balbuzard pêcheur.
Un balbuzard pêcheur, exactement.
Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté... Alors oui, les Eagles sont pris deux fessées contre deux grosses équipes, mais contre les équipes d'un autre calibre, pour l'instant, ils ont toujours été dominants. Les Seahawks, mine de rien, quid de Geno Smith, hein? Ouais. Quid de cette ligne offensive qui n'arrête pas de perdre des joueurs? Je trouve que les Seahawks, ils sont pas épargnés par les blessures non plus, hein, cette année.
Non, c'est vrai.
Pareil, Kenneth Walker, bon, apparemment il sera là, mais dans quel état, on sait pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Une équipe qui vient de perdre contre les Niners, qui est en perte de vitesse, donc c'est un peu un duel d'équipes blessées. Et je vais partir sur les Eagles parce que sur le papier, c'est la meilleure équipe.
Je vais prendre les Eagles aussi quand même, donc fin de la série historique, hein, les fans de Seattle en sueur. Pour info, Philadelphie qui est qualifié s'ils gagnent, qui peuvent même gratter plus qu'une... Enfin, qui peuvent déjà s'assurer d'une 5e ou 6e place, ou 4e place, j'ai vu, s'il y a d'autres équipes qui perdent.
5e, parce que...
C'est ça.
S'ils perdent la division, ils sont de facto 5e.
De toute façon. Voilà pour les matchs de la semaine, et nous, on va finir avec les cotes. Les cotes de la semaine 15 qui vous ont présenté par notre partenaire Unibet. Comme toujours, on est avec Unibet pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à passer par le lien qui est sur touchdownactu.com pour vous inscrire et pour faire vos paris. On choisit 3 cotes. Victor, qu'est-ce qui te plaît cette semaine? Pas évidente, j'ai trouvé, parce que forcément, fin de saison, il y a des choses de plus en plus évidentes. Est-ce que déjà les Buccaneers à 2,24, toi qui les as pronostiqués, ça peut te tenter?
Alors oui, moi il y a un truc qui me tente quand même, c'est, je sais que j'ai mis des Bills, hein, J'ai dit par conviction, mais pour moi, les Cowboys sont quand même largement favoris. Et les Bills sont à 1,61, les Cowboys sont à 1,94.
Oui. Donc, tu m'as devancé, ça allait être ma deuxième cote.
Donc clairement, donc, les Cowboys, Cowboys, Buccaneers, je suis d'accord.
Et après, il y a quand même les Broncos à 2,52. Et on a dit, Détroit, face à la dynamique actuelle...
Mais attends, tu veux pas prendre un troisième safe et ensuite on fait un petit YOLO ? Enfin, safe. Les Buccaneers face aux Packers, c'est pas safe, mais bon.
c'est... Bah, après, comme safe intéressant, il n'y a pas d'autres favoris qui soient sur le papier, qui soient pas favoris sur les paris. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir
Moi, je pensais aux Texans à 1,97.
Ah bah oui, si, bien sûr. Oui, moi aussi. Paf, parfait. Ah oui, tiens, ça, c'est pas mal, ça, ce petit combiné, là.
Bah ouais, t'as vu.
Parce que là, t'as les Cowboys à 1,94 face aux Bills. Tu as les Buccaneers à 2,24 face aux Packers. Et tu as les Texans à 1,97 face aux Titans. Ah ouais, j'aime bien ça. Si vous trouvez que c'est trop... que les Buccaneers, c'est vrai que les Buccaneers est peut-être un peu moins évident sur le papier, mais il y a d'autres favoris qui sont un peu plus haut, un peu plus bas, mais qui peuvent le faire. Tu vois, je vois par exemple les Browns à 1,47. Bon, mais voilà, si vous voulez safer un peu le truc, en tout cas, si vous prenez Cowboys, Buccaneers et Texans, pour 5 euros misés, il y a une cote de 8,56 et donc il y a 42,80 euros de gain potentiel. Mm-hmm. J'aime bien. Bon, tu vas mettre qui dans ton YOLO du coup ?
Bah, du coup, on met les Jets. Broncos.
Les Broncos, ok, à 2,52. Est-ce qu'on met les Jets face aux Dolphins ?
Ouais, 3,60. Ouais. Le match à 4 interceptions, tu as et tout. Ouais. Ça, ok, on imagine.
Et puisqu'on est sur New York.
Ouais, j'allais dire les Giants à 2,75 bah ouais. quand même.
Bah bien sûr, les Giants à 2,75. Et là, on est sur du joli YOLO. Là, on est sur du joli YOLO. On garde les Cowboys, on garde les Buccaneers, on garde les Texans. On a rajouté Denver à 2,52 face aux Lions. On a rajouté les Jets à 3,60 face aux Dolphins. Alors on l'a dit tout à l'heure, si Tyreek Hill n'est pas là, à tout moment, les Dolphins, ça peut se casser la figure. Mm-hmm. Et les Jets ont une super défense aérienne. Et les Giants face aux Saints. Les Saints, c'est quand même une bonne défense, mais une attaque qui est très en dents de scie. Et les Giants, qui ont l'air d'avoir une bonne dynamique et qui sont c'est à domicile ? Attends, j'ai oublié déjà, du coup. Mais bon, en l'occurrence, voilà. 2,75 les Giants, 3,60 les Jets. Et là, messieurs, dames, pour 5 euros misés, vous avez une cote à 213,58. Avec le bonus Multimax Freebet, vous arrivez à 1147,59 de gains potentiels. Je dis bien potentiel, puisqu'on le rappelle que c'est un YOLO et que du coup, l'argent que vous visez, il faut que vous soyez prêt à le perdre. Mais on est pas mal, là, Victor.
Oui, bah évidemment, sur un YOLO, de toute façon, ne jouez que d'argent que vous pouvez perdre. Si vous bien sentez sûr. Que vous perdez le contrôle, il y a des numéros d'aide, etc. Là, si vous avez l'impression de faire une bonne affaire en misant ces 5 euros, c'est sûrement que vous avez besoin d'être aidé. Mais, mais oui, ça, je suis d'accord qu'on a vu des YOLO beaucoup plus improbables que ça.
Ouais. Celui-ci est sympathique. Et puis, c'est comme ça qu'on va terminer notre podcast, puisque vous pouvez retrouver... tous les épisodes de podcast Touch dans l'actu, il y en a 5 par semaine maintenant, donc vous êtes abreuvés constamment sur toutes vos plateformes de podcast. Abonnez-vous, laissez des étoiles. Tiens, j'en parle parce que ce matin, je regardais les chiffres de Twitch. Vous savez qu'on est sur Twitch également, donc n'hésitez pas à y aller aussi. On est tous les dimanches dès 17h30 pour faire le fauteuil et puis on y sera pendant l'intersaison et puis au moment des playoffs pour faire du contenu supplémentaire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous avez un abonnement sur Amazon Prime, vous pouvez vous abonner même et supporter la chaîne Twitch Touch dans l'actu. Donc n'hésitez pas à y aller. On remercie tous ceux qui le sont déjà. Et puis sinon, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Abonnez-vous partout, allez sur tdactu.com et allez suivre Victor aussi sur Twitter, comme même il raconte des bêtises. C'est quoi déjà ton Twitter, toi?
Il ne sait pas. Victor Roulier, je crois.
Ouais, vous tapez Victor Roulier, vous le trouverez. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec moi, Victor, pour cet épisode.
Merci à Aoun, merci à tous.
Et puis merci à toutes ceux et celles qui nous soutiennent sur Tipeee, vous pouvez les rejoindre également. Je rends la main, il est temps, je vous dis rendez-vous demain pour parler de draft. On parle de quoi demain, Victor ?
Eh bien, je ne sais pas, car c'est Jean-Mi et Niti qui font l'épisode, donc
j'aurai
la surprise en même temps que vous tous.
Eh bien, écoutez le podcast draft avec Jean-Mi et Niti, et puis à très bientôt pour un nouveau podcast sur TD Actu. Salut !
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.